Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose, de manière fortuite ou non, sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
Mes élèves ont rencontré Camille Lorenz, l'autrice de Filles, dans le cadre du prix littéraire de la région, le 8 mars 2022. Camille Lorenz ne pouvait pas se déplacer, alors cette rencontre s'est faite à distance. Nous avons tout fait pour, comme d'habitude, la rendre chaleureuse et intellectuelle.
À propos des filles, il y a une chose bizarre.
Tu es une fille, c'est entendu.
Mais tu es aussi la fille de ton père
et la fille de ta mère.
Ton sexe et ton lien de parenté ne sont pas distincts.
Tu n'as et n'auras jamais que ce mot pour dire ton être et ton ascendance, ta dépendance et ton identité.
La fille est l'éternelle affiliée. La fille ne sort jamais de la famille.
Le docteur Gallio, au contraire, a eu un garçon et il a eu un fils.
Tu n'as qu'une entrée dans le dictionnaire. Lui en a deux.
Le phénomène se répète avec le temps. Quand tu grandis, tu deviens une femme et, le cas échéant, la femme de.
L'unique mot qui te désigne ne cesse jamais de souligner ton joug. Il te rapporte toujours à quelqu'un, tes parents, ton époux, alors qu'un homme existe en lui-même. C'est la langue qui le dit, comme la grammaire t'expliquera plus tard, dans ta petite école de filles jouxtant celle des garçons, que...
Le masculin porte sur le féminin.
Tu devras l'apprendre par cœur un jour, mais tu le sais depuis le premier jour.
Au cas où tu ne l'aurais pas bien mémorisé, le pasteur te le réexpliquera sous une forme plus imagée.
Dieu a créé Adam, puis, le trouvant bien seul, lui a bricolé une compagne à partir d'une de ses côtes.
Eh, venait d'un bout de thorax mâle, alors ça?
Tu as 8 ans, tu as pu te représenter un chou, une rose, tu as pu gober le cou de la cigogne, mais fille et femme née d'un os d'homme, non, c'est trop.
Tu rigoles avec ta sœur sur le chemin du catéchisme.
Alors Adam, il a une côte en moins, mal foutu l'ancêtre, les garçons, il leur manque une case.
Et au moment de la promesse, tu as 15 ans, tu demandes à la cantonade.
Vous savez pourquoi Dieu a créé Adam avant Ève, les filles? Parce que, avant de faire un chef-d'œuvre, il faut bien faire un brouillon.
Toutes les catéchumènes humaines s'esclaffent.
Le pasteur, lui, trouve que tu n'es pas mûre pour faire ta communion cette année-là.
Tu ne la feras pas. Tu ne la feras jamais.
Jésus n'est qu'un fils à papa, et toi, tu t'en bats les couilles.
C'est formidable. Ah, j'adore. J'ai très bien lu.
Bah, c'est surtout sur la lecture qu'on a le plus, le plus travaillé, on va dire.
Qui commence?
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé d'écrire et quand est-ce que vous avez eu cette envie?
D'une manière générale, pas ce livre-là.
Oui, de manière générale.
D'écrire, de commencer à écrire. C'est difficile de dire, de dater exactement quand j'ai commencé à écrire, à avoir envie d'écrire. Je pense que l'envie d'écrire, elle est venue très très tôt, vraiment dans l'enfance, puisque en fait dans la petite école primaire où j'allais, il y avait une imprimerie, une petite imprimerie à l'ancienne. Évidemment, c'était pas les imprimeries de maintenant, c'était vraiment les imprimeries avec les petits caractères, les caractères métalliques qu'on mettait les lettres une par une jusqu'à faire des mots. Et ça, l'idée que je pouvais moi-même, j'avais, je sais pas, 7-8 ans, que je pouvais moi-même créer un texte, ça a été déterminant, je pense, dans mon goût du texte, du livre, du texte imprimé. Et ensuite, j'aimais beaucoup lire, donc je crois que le goût d'écrire, l'envie d'écrire vient en grande partie de... du goût de la lecture, il me semble. D'ailleurs, ça peut être un problème de quand on lit beaucoup de se mettre à écrire parce que on est un peu écrasé par tous les chefs-d'œuvre qu'on a pu lire. Dans mon premier roman, c'est sans doute pas un hasard si c'est dans mon premier roman, il y avait qui s'appelle Index. Il y a un personnage qui veut se mettre à écrire. Et simplement, il n'y arrive pas parce que dès qu'il commence une phrase de roman, eh bien, il a des souvenirs de phrases qu'il a lues dans des romans de Flaubert ou des textes de Chateaubriand ou d'autres des grands auteurs. et ça l'empêche, en fait, ça l'inhibe, ça l'empêche lui-même de d'écrire. Et donc, moi-même, en fait, j'ai dû lutter pendant longtemps contre cette inhibition du fait que j'avais beaucoup lu. Me mettre à écrire, c'était en quelque sorte dire, bah, moi aussi, je peux le faire, mettre d'une certaine manière à égalité avec ces grands classiques que j'admirais. Donc ça, c'est une étape importante qui est venue pour moi progressivement. En fait, j'ai commencé par écrire des petits poèmes quand j'avais, je sais pas, 14-15 ans. Et ensuite, à 20 ans, j'ai fait un recueil que j'ai même envoyé à des éditeurs. Bon, il n'a pas été publié. Et puis, le roman, l'écriture du roman est venue vraiment très, très progressivement. Mais je ne me suis jamais dit, parce que j'entends souvent des écrivains dire qu'ils ont toujours voulu être écrivains. Moi, quand j'étais enfant et même adolescente, enfin, je ne me suis jamais dit que j'allais être écrivain, en revanche, enfin, écrivaine. Mais en revanche, j'ai toujours eu envie d'écrire. J'ai toujours écrit. Depuis l'âge de 13-14 ans, je tenais un journal intime et ça a toujours été très, très important pour moi d'exprimer mes émotions, de raconter les événements de ma vie.
Et ce livre en particulier, d'où est-il parti ?
Ce livre-là, ce livre en particulier, en fait, il est venu d'une sorte de bilan que j'ai fait peut-être, il me semble, à l'occasion de tout ce que j'entendais autour de moi avec le mouvement MeToo, où j'entendais toutes ces femmes, toute cette parole qui se libérait sur la condition féminine. Et moi, ça faisait déjà plusieurs romans que je consacrais à cette question, à la question de la condition féminine ou des relations entre les hommes et les femmes. Et là, MeToo m'a amené à me poser certaines questions sur justement l'évolution de la condition des filles et des femmes sur plusieurs décennies. Et je l'ai regardé par rapport à ma propre existence. Au moment de MeToo, quand j'entendais les femmes parler de harcèlement de rue, de parler de tout ce dont elles étaient victimes, je parle même pas des abus graves, mais tout ce dont elles étaient victimes dans la rue, dans les transports en commun, les injures, les attouchements, le harcèlement. J'ai voulu moi-même faire une sorte d'inventaire. Je me suis dit, mais moi, dans ma vie, qu'est-ce qui m'est arrivé depuis que je suis née, en fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé en tant que fille? J'ai fait une sorte de panorama de tous les événements que je pouvais attribuer au fait que j'étais une fille. Et il y avait tellement de choses des plus dramatiques jusqu'au plus apparemment futiles que je me suis dit que j'allais creuser la question dans un roman. Alors dans ce roman, il y a pas tout, parce que j'ai fait une liste pour vous dire la vérité, et c'était tellement, il y en avait tellement, tellement, depuis des choses anodines jusqu'à des événements tragiques, que j'ai créé un personnage qui est très proche de moi, le personnage de la narratrice de filles, et j'ai repris à partir donc de la fin des années 50 jusqu'à nos jours, j'ai repris certains de ces événements pour montrer qu'en fait, ce n'est pas très facile d'être une fille, d'être une femme. Alors aujourd'hui, c'est le 8 mars, hein, c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc ça tombe particulièrement bien d'en parler en ce moment, mais c'est vraiment un sujet qui me passionne depuis longtemps. Qui est à la fois un sujet de société, un sujet intime, donc historique bien sûr, parce qu'il se trouve que je me suis beaucoup inspirée de mon histoire, l'histoire de ma famille, ma mère, ma grand-mère, de ce que j'ai pu observer de d'elle, parce qu'il faut quand même bien voir que jusqu'en 1965, c'est quand même pas si vieux. Bon, évidemment, vous, ça vous paraît lointain, mais bon, pour moi, c'est mon enfance. Jusqu'en 1965, une femme n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque et donc de signer un chèque sans l'accord de son mari. Donc ma mère, par exemple, ne pouvait pas signer un chèque. Il fallait que, en général, mon père qui le faisait. Une femme n'avait pas le droit de travailler si son mari ne voulait pas. Elle devait avoir l'accord de son mari pour travailler. Vous voyez que quand même, il y a une évolution en 60 ans qui est extraordinaire. Et il se trouve que moi, j'ai connu, bon, c'est un peu le hasard, mais enfin, le hasard, c'est l'histoire, mais j'ai connu les grandes périodes d'avancée du féminisme. Puisque quand j'étais adolescente, c'était vraiment le moment du MLF, mouvement de libération des femmes, le MLAC, mouvement de libération de l'avortement et de la contraception, c'est le moment, la légalisation de l'avortement, de la contraception, la pilule, tout ça qui paraît acquis maintenant, mais qui ne l'est pas tant que ça d'abord, parce que c'est remis en cause parfois, ici et dans d'autres pays. Donc ça, c'est ce mouvement auquel j'ai participé. Enfin, j'étais très jeune, mais enfin, j'ai manifesté, j'ai vu toute l'effervescence liée à ce mouvement de libération des femmes. Donc ensuite, j'ai connu plus tard, donc adulte, d'abord d'autres manifestations féministes, mais ensuite le mouvement LGBT, hein, mouvement de libération homosexuelle, là jusqu'au mouvement MeToo, les mouvements LGBT avec les manifestations pour le mariage pour tous, tous ces remaniements finalement des sur la question du genre et des relations entre les sexes et jusqu'au mouvement MeToo. Donc ça fait quand même une sacrée avancée. Et puis c'était aussi une façon de réfléchir aux générations successives concernant les femmes. Et le roman, c'est ça, il est un petit peu construit dans qu'est-ce que c'est qu'être une fille. Qu'est-ce que c'était qu'être une fille dans les années 60, 70, 80, devenir une femme dans ce contexte, et puis ensuite avoir une fille. Donc, continuer l'histoire en étant devenue une femme qui a elle-même une fille, qui est donc dans une autre époque, avec d'autres progrès de la condition féminine. Et voilà, ça me semblait important aussi peut-être pour les générations suivantes et pour votre génération, pour la génération de ma fille qui est un peu plus âgée que vous, qui était de rappeler quand même ce qui s'était passé avant. Parce que moi, je l'ai vu avec ma propre fille. Bon, elle n'avait pas forcément une connaissance très très claire de ce qu'avait été la vie des femmes à l'époque de sa propre mère, donc moi, et a fortiori de sa grand-mère. Donc voilà, ça me semble important de remettre en perspective tout ce courant que j'appelle féministe, hein, parce que féministe pour moi, on me demande souvent si je suis féministe et oui, je suis féministe au sens où féministe, ça veut dire qui défend la cause des femmes. Et tant que les femmes ne seront pas à égalité complète avec les hommes, eh bien, je serai féministe. Parce que souvent, on entend féministe au sens de la guerre des sexes, les féministes sont contre les hommes, etc. Moi, c'est pas du tout ma position. Mais en tout cas, c'est quand même un livre féministe et je l'ai écrit dans cette perspective. De servir, si possible, la cause des femmes.
Comment expliquez-vous que la domination masculine perdure ?
Comment je l'explique ? Ben, écoutez, d'abord, je pense que c'est vraiment quelque chose d'archaïque. Je me souviens encore de ces paroles de Françoise Héritier, qui est une anthropologue qui est décédée il y a quelques années, une anthropologue très célèbre et qui a travaillé beaucoup sur le masculin féminin. C'est le titre d'un de ses livres très important, masculin féminin. Et à la fin de sa vie, elle était interviewée. On lui posait un peu cette question. Est-ce que vous croyez que c'est la fin du patriarcat, que la domination masculine, vit ses derniers moments? Et elle a répondu que elle pensait que ça mettrait encore des siècles. C'était quand même très très pessimiste et ça m'a marqué. Parce que c'était une domination très très ancienne et que ça ne pouvait pas se régler à coup de simple législation ou de bonne volonté, et que c'était tout un remaniement finalement des consciences. Bon, évidemment ça n'empêche pas qu'il faut légiférer aussi, mais que c'était comme dans le cerveau reptilien. Elle employait le terme de cerveau reptilien masculin, que le rapport aux femmes, c'était quelque chose de très très compliqué à amener à une égalité. Alors comment l'expliquer? Je pense que là, il y a beaucoup enfin, je vais pas me lancer dans les explications que donnent beaucoup d'anthropologues ou de scientifiques, mais je pense que d'abord, il y a comme un ajustement, une assimilation de la force physique à la force tout court, quoi. C'est-à-dire que la constatation que physiquement, musculairement, si on peut dire, l'homme est plus fort que la femme, je pense que dès, et puis que c'est la femme qui donne naissance, donc il y a un état de vulnérabilité dû à cela. Je pense que, enfin, c'est d'ailleurs repris. Montré par beaucoup de scientifiques, c'est ce qui, de manière archaïque, a fondé cette notion de supériorité qui n'est fondée en rien et puis qui est construite ensuite culturellement, constamment. Moi, ce que j'ai essayé, ma petite part, c'est de le montrer dans la langue. C'est construit culturellement, cette domination, jusque dans la langue. Là, vous avez montré dans la vidéo cette fameuse règle de grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Pourquoi, parce que ça coïncide quand même avec quelque chose qui était historiquement, depuis toujours, dans la société. Je reprends dans le livre des expressions qu'on emploie souvent et qui sont toutes en faveur du masculin. Par exemple, le fait que on dise, il y a une expression courante pour appeler au courage, on dit sois un homme. Sois un homme, l'équivalent, c'est ne fais pas ta fille. Parce que sois un homme, c'est sois courageux, mais il n'y a pas l'équivalent, on ne dit pas sois une femme. On n'a jamais dit à personne sois une femme. Parce que, il n'y a pas de qualité particulière attribuée au féminin, et il y a beaucoup de choses comme ça. Vous voyez, quand dans le roman je remarque que garce, le mot garce au départ c'était juste le féminin de garçon, un garçon, une garce, et le mot a disparu en tant que féminin de garçon, puisque c'est fille, le féminin de garçon. En revanche, le mot garce est resté. Donc, avec cette origine-là, il est resté pour désigner. Enfin, vous savez bien ce que ça signifie. C'est une injure, et c'est une injure qui est réservée aux filles, hein, une garce. Voilà. Mais donc, pourquoi est-ce que le féminin dégénère d'une certaine manière toujours, souvent, en quelque chose de négatif dans la langue? Ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé. De même comme je le montre dans la quatrième de couverture du roman, les quatre définitions du dictionnaire, y en a une qui signifie prostituée, hein, une fille, aller voir les filles, dans tous les romans du 19e, on voit ça très souvent, aller chez les filles, c'est une fille au sens de, c'est une fille de mauvaise vie, c'est une prostituée. Alors pourquoi ce mot-là à une polysémie qui est quand même assez souvent chargée négativement, vous voyez, tout ça fait sens. Hein, on ne peut pas l'ignorer complètement, mais on ne doit pas l'ignorer.
C'était la première partie de la rencontre avec Camille Lorenz, autrice de Filles, dans le cadre du prix littéraire de la région Pays de la Loire.